Merci beaucoup, Johan, en tout cas, pour ce rappel de la vision. Et merci d'avoir prié pour nous. Et je tiens à vous saluer, et surtout ceux et celles que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer depuis hier. Si vous êtes arrivés tard dans la nuit alors que j'étais en train de dormir, parce que j'étais fatigué. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis secrétaire itinérant régional des groupes bibliques universitaires, Garantie Bonne Union, depuis 2008, en région Rhône-Alpes. Et ce, jusqu'au 31 août 2013, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager ces derniers jours d'engagement au GBU avec vous pour l'un des moments forts de l'année, qui est le camp de formation biblique. Et le PowerPoint, c'est Johan qui gère et je l'en remercie. En fait, j'ai une question pour commencer. Il y a quelques années, en introduisant une série de messages dans le livre de Job, j'avais comparé ce livre à un animal. Lequel ? Un livre, question suivante pour celui qui trouve la réponse. C'est pas le chameau. J'avais comparé, plus qu'une seule possibilité, comparé le livre de Job à un animal. Lequel ? Eh non, désolé. C'était un éléphant. Mais merci quand même d'avoir essayé. Et pourquoi avais-je comparé le livre de Job à un éléphant ? Vous vous rappelez ? Exactement, Caillou. Pour le couper en morceaux, j'avais indiqué en fait que la meilleure façon finalement de manger un éléphant, c'était de le couper en morceaux. Et de la même manière, la meilleure façon d'engloutir le livre de Job, 42 chapitres, c'était finalement de le découper en morceaux, en parties ou en sections cohérentes. Alors aujourd'hui, en 2013, alors que j'introduis une série de messages sur le livre d'Ésaïe, je ne peux plus me permettre de comparer un livre de la Bible à ce même éléphant. Je ne peux plus employer la même métaphore. Que faire ? Je suis bloqué. Mais les 12 versets d'Ésaïe 53, le chant du serviteur, même s'ils ne peuvent pas être comparés à un éléphant, peuvent être comparés à un autre mastodonte. Lequel ? Des idées ? Un rhinocéros, c'est pas mal, Caillou, mais non. J'ai pas dit que c'était un animal. Ah, ça complique la situation. Je ne le vois pas, mais tu sais que tu n'es pas loin. Il est dans ce monde. Pas mal, qui a dit ça ? Ouh, on se voit après. On se voit après, ok ? Écoutez ce qu'un commentateur de l'Ancien Testament, Kyle M. Yates, pour ceux qui le connaissent. Écoutez à quoi ce commentateur compare les versets que nous allons lire ensemble cette semaine, en tout cas pendant les expositions du matin. Je le cite. Ces cinq strophes, il parle des cinq strophes d'Ésaïe 53. Inégalable, du quatrième poème, sans le mont Everest, de la prophétie messianique, c'est-à-dire la prophétie qui annonce la venue du Messie, le roi promis dans l'Ancien Testament et qui est venu dans le Nouveau Testament. Ces cinq strophes inégalables du quatrième poème sont le mont Everest de la prophétie messianique. En disant une montagne, tu n'étais pas très loin. Et c'est un mont Everest que je vous propose de gravir en six étapes en fait. En six étapes et en consacrant la première étape à une introduction. Alors je sais, vous allez peut-être être déçus parce que vous aimeriez rentrer dans le vif du sujet dès ce matin. Et vous avez d'une certaine manière raison. Mais vous savez, j'ai lu qu'avant de s'attaquer à l'ascension du mont Everest, qui culmine à combien de mètres d'ailleurs ? Alors moi j'ai lu 8848, mais t'es pas très loin Luc, t'es pas très loin. Alors avant de s'attaquer à l'ascension du mont Everest, j'ai lu que les grimpeurs, en fait, vous savez quoi ? Eh bien, ils se préparent. Ils se préparent en faisant notamment une marge d'approche de 6 à 8 jours. Pourquoi, selon vous, se préparer ? Rappelez-vous, 8848 mètres. Pour grimper, ouais. Exactement, mais exactement, oui, Sébastien, pour s'acclimater à l'altitude. Et de la même manière, vous voyez où je veux en venir ? De la même manière, il me semble qu'avant d'en rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans Ésaïe 53, cinq strophes inégalables, le mont Everest de la prophétie messianique, l'évangile de l'Ancien Testament, d'une certaine manière. Il est vraiment important de s'y préparer. Vraiment important de s'y préparer en étudiant au préalable deux choses capitales que vous entendez toutes les semaines au GBU, si vous venez toutes les semaines. D'une part, le contexte, merci, et d'autre part, les enjeux. D'une part, comprendre le contexte, car vous savez tous que tout texte hors de ton contexte est un prétexte. Merci. Dans un premier temps, nous allons donc brièvement rappeler le contexte historique. Important, non ? La Bible a été écrite à un moment précis de l'histoire. Il est important d'étudier, de rappeler ce contexte historique dans lequel Ésaïe a effectué son ministère, dans lequel il a parlé. Mais aussi la nature de la prophétie, puisque vous savez qu'il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible, par exemple. La poésie, ouais. La loi, exactement. L'histoire, on a des livres historiques, quoi d'autre ? La prophétie, exactement. Et le genre littéraire auquel appartient Ésaïe, c'est de la prophétie, un genre littéraire bien particulier. Okay. Première étape, comprendre le contexte. C'est ce que nous allons faire rapidement, je vous rassure. Deuxième chose, comprendre les enjeux. Et là, il me semble aussi que c'est vraiment important de comprendre les enjeux. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'enjeu théologique principal d'Ésaïe 53. Ce à quoi on va un peu s'attaquer ce matin, je veux bien entendu parler, la substitution vicaire ou pénale. Une doctrine vraiment fondamentale sur laquelle repose votre espérance, si vous avez placé votre confiance en Jésus. Une doctrine de plus en plus remise en question aujourd'hui et qu'il s'agit de défendre et de comprendre pour mieux l'apprécier. Mais au-delà d'un simple débat théologique, assez théorique finalement, il me semble que l'intérêt d'Ésaïe 53, des versets que nous allons lire ensemble, cette semaine, l'intérêt de ce chapitre, c'est qu'il répond. Il répond finalement au plus grand problème de l'humanité depuis la nuit des temps. Il répond à votre plus grand problème, si vous considérez que vous êtes un homme ou une femme ce matin. C'est le cas ? On est tous concernés ? Si la réponse à cette question est oui, mes amis, ce chapitre répond au plus grand problème de votre vie et peut changer, transformer votre vie. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Et c'est à ce moment que commence le pauvre point. Je ne crois pas qu'il soit vrai que la religion est morale ou éthique. Est-il moral de croire que vos péchés, les vôtres et les miens, mesdames et messieurs, frères et sœurs, peuvent être pardonnés par la punition d'une autre personne ? Est-il éthique de croire ça ? Je soutiendrai que la doctrine de la rédemption vicaire par sacrifice humain est complètement immorale. Je pourrais faire ce que Sidney Carton fait dans Un conte de Deville. J'ouvre une parenthèse pour dire que Un conte de Deville, c'est un roman de Charles Dickens, d'accord, qui raconte l'histoire du sacrifice d'un homme pour un autre. Fin de la parenthèse. Je pourrais faire ce que Sidney Carton fait dans Un conte de Deville, si vous voulez. Il est très improbable que je fasse ça, à moins que vous ayez été incroyablement gentil avec moi. Je prendrai votre place sur l'échafaud, mais je ne peux pas prendre vos responsabilités. Je ne peux pas pardonner ce que vous avez fait. Je ne peux pas dire que vous ne l'avez pas fait. Je ne peux pas vous rendre propre. C'est une doctrine positivement immorale qui abolit le concept de responsabilité dont dépendent toute éthique et toute moralité. Fin de citation, puisqu'il s'agit d'une citation. Et que ce n'est pas moi qui pense ça. C'est bon, je peux rester ? Alors, comme nous l'avons dit, de toutes les doctrines chrétiennes, la substitution vicaire, vicaire vient d'un mot latin vicarius, qui veut dire suppléant, on parle aussi de substitution pénale. Cette doctrine est sans doute celle qui suscite les réactions les plus virulentes parmi les non-chrétiens, comme Christopher Hitchens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Christopher Hitchens. Un conseil, mes amis, regardez le débat entre Christopher Hitchens, qui est un journaliste américain décédé aujourd'hui, et Alistair McGrath, l'un des apologètes, à mon avis, les plus pertinents du XXe siècle. Regardez ce débat. Pour prendre conscience des arguments qui sont lancés contre la foi chrétienne et des réponses qui existent et de la manière de répondre. Alistair McGrath, pour moi, est un modèle de douceur et d'amour pour répondre aux objections chrétiennes les plus sérieuses de notre époque. Vous faites YouTube, ça prend 2 heures, Mais c'est extraordinaire. Ouais, mais vous les voyez pas passer. Exactement, dans le train. Christopher Hitchens, écrivain et journaliste donc américain, aujourd'hui décédé. N'est-il pas, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? N'est-il pas en effet immoral, complètement immoral, de croire que c'est sur la base du sacrifice, mais d'une autre personne, vous voyez, d'une autre personne, que je peux être pardonné de mes péchés ? C'est immoral, non ? Ça abolit le concept de responsabilité dont dépendent toute éthique et toute moralité. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Et si oui, comment répondriez-vous ? Comment auriez-vous répondu à Christopher Hitchens si vous aviez été à la place d'Alistair McGrath pendant ce débat ? Comment répondre à cette objection qui est non seulement avancée par nos amis non-chrétiens, mais aussi, figurez-vous, par certains chrétiens évangéliques ? Vous saviez ça ? Je vous l'apprends. On verra ça plus tard dans la semaine. C'est une doctrine vraiment hyper, hyper, méga, super importante qu'il faut comprendre, mes amis, pour mieux la défendre. Soyez toujours prêts à vous défendre, à défendre votre espérance contre ceux qui la remettent en question, qui la remettent en doute. Alors, comment répondre à cette objection ? Avant de donner quelques éléments de réponse théologiques à la fin, suspense, j'aimerais donner quelques éléments de réponse biblique pour poser les bases, ok ? Quelques éléments de réponse biblique. Normalement, ça doit avancer. Non, c'est introduction. Introduction. Excuse-moi, Yann, je n'ai pas précisé. Introduction. On n'a pas beaucoup avancé, donc c'est bien. Dans le PowerPoint, je veux dire. Donc, avant de donner quelques éléments de réponse théologique, j'aimerais donner des éléments de réponse biblique. Quels sont les textes bibliques, selon vous, qui confirme la doctrine de la substitution pénale? Des versets qui vous viennent en tête? Des versets dans la Bible où vous voyez en effet que Jésus est mort à notre place. Alors certains disent Jean 3,16, c'est vrai que ça dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, d'accord, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en son nom. C'est vrai. Mais la notion de substitution est plus implicite explicite dans ce verset, même si c'est un verset tout à fait pertinent. Hein. Je vous propose Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est là de qui il est question, le Fils de l'homme ?» De Jésus, c'est lui qui parle. « Est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et là, j'attire votre attention sur un détail très important. C'est la nature de la préposition qui est utilisée dans le texte original. C'est la préposition « anti ». Qui a donné Antichrist notamment. Et l'Antichrist, ce n'est pas tant celui qui est contre Christ. Certes, il est contre Christ, mais c'est celui qui vient prendre la place de Christ. Et c'est la même préposition qui est utilisée dans l'original. Anti, pour beaucoup, qu'on pourrait très bien traduire à la place de beaucoup, tout à fait. De Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Un verset sous lequel nous occasions de revenir et qui parle de la double imputation. Une doctrine aussi très importante à comprendre. Jésus est devenu péché pour nous. Cela ne veut pas dire qu'il a péché, mais qu'il est devenu péché aux yeux de Dieu. Pour que nous ne soyons plus considérés comme pécheurs aux yeux de Dieu. Vous comprenez ? Il y a eu un échange, un transfert de culpabilité, une substitution. Troisième et dernier passage auquel j'ai pensé. Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, c'est l'apôtre Paul qui parle, l'auteur de l'épître, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez comment bibliquement nous avons des arguments de poids qui militent en faveur du bien fondé de la doctrine de la substitution pénale. Jésus est mort à notre place pour nos péchés. Mes amis, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Ok ? Et au cœur de cette bonne nouvelle, il y a la doctrine de la substitution pénale, dont parle notamment Ésaïe 53. Mais cette doctrine n'est pas une invention du Nouveau Testament. Vous pourrez très bien me dire, oui, mais tu as cité des versets du Nouveau Testament. Qu'en était de l'Ancien Testament ? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous montrer, vous faire découvrir au travers du ministère et de la prophétie d'Ésaïe. J'ai deux points assez simples ce matin. Premièrement, nous allons voir le ministère d'Ésaïe. Et deuxièmement, la prophétie d'Ésaïe. Ça va ? Pas trop dur ? Je ne vois pas encore de fumée qui sort de votre cerveau. Ça veut dire que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ésaïe est donc un... C'est-à-dire, comment est-ce que vous définiriez le mot prophète ? porte-parole de Dieu, exactement, un porte-parole de Dieu qui ne prédit pas seulement l'avenir, un peu comme Nostradamus ou Paco Rabanne. Bon, avec plus ou moins de succès pour Paco Rabanne. C'est un prophète qui rappelle ce que Dieu a déjà révélé à son peuple dans le cadre de ce que la Bible appelle des alliances. Et notamment dans une alliance très importante, un accord entre Dieu et son peuple, dont Dieu est à l'initiative, l'alliance qui a été faite avec Moïse. On appelle ça l'alliance sinaïtique, qui était conclue entre Dieu et son peuple au mont Sinaï. Et le job, non, on n'est plus dans Job, je sais, mais le job d'Ésaïe va notamment consister à rappeler au peuple de Dieu la loi de Dieu, ce que Dieu a déjà révélé à son peuple dans le passé. Écoutez comment Douglas Stewart, qui est un professeur de l'Ancien Testament, définit la prophétie. Ça fait l'objet d'une diapo. J'ai jugé nécessaire d'écrire cette définition parce qu'elle n'est pas facile à comprendre, mais elle est vraiment capitale. Le contenu des oracles des prophètes classiques écrivains, Ésaïe par exemple, tourne quasi entièrement autour de l'annonce de l'accomplissement imminent des malédictions qu'entraîne l'alliance, d'accord ? Et autour de l'accomplissement eschatologique, c'est-à-dire des temps de la fin, des bénédictions de rétablissement qu'entraîne l'alliance. Ça va ? Vous avez compris ? Donc les prophètes, leur prophétie tourne quasi entièrement autour de l'annonce de l'accomplissement imminente des malédictions qu'entraîne l'alliance. Dans le cadre de l'alliance, il y a des malédictions, si le peuple n'obéit pas. Ces malédictions ont généralement tendance à s'accomplir dans un avenir relativement proche. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, n'est-ce pas ? Le peuple a été jugé, on le verra. Mais aussi l'accomplissement eschatologique, c'est-à-dire plus tard, des bénédictions de rétablissement qu'entraîne l'alliance. Et je profite de ce petit moment pour dire que les temps de la fin, mes amis, nous y sommes maintenant. Les temps de la fin ont été inaugurés par quoi ? Par la mort de Jésus, sa résurrection, et seront conclus par quoi ? Par son retour, exactement. On est en plein dans la fin des temps maintenant. Ok ? Autrement dit, c'est dans cette alliance sinaïtique, mosaïque, on pourrait dire, que les prophètes, comme Ésaïe, vont puiser quelque part pour annoncer les malédictions qui vont s'abattre sur le peuple dans un avenir très proche, si le peuple désobéit, et les bénédictions, mais qui vont s'accomplir un peu plus tard. Ça va, c'est clair ? Pour l'instant ? Il y a deux chapitres dans la Bible dans lesquels les prophètes vont puiser ces malédictions et ces bénédictions, lesquels ? Vous allez les connaître par cœur. Lévitique 26 et Deutéronome 28. Ce sont les deux chapitres, notamment, dans lesquels les prophètes vont puiser pour annoncer cet accomplissement. Voilà donc en quoi consiste, rapidement, je vous l'avais promis, c'est pas très long, hein, en quoi consiste un peu le ministère d'Ésaïe, qui a exercé un ministère, un service de longue durée. Quel siècle, Ésaïe ? Vous vous rappelez ? 8e siècle, absolument. Quel royaume ? Johan l'a rappelé, Juda. Sous le règne de quel roi ? Il y en a trois. Ozias et Jotham. Trois rois. Donc un ministère de longue durée dans le royaume de Juda. Ça va, c'est clair pour le ministère d'Ésaïe. Il est bon, n'est-ce pas, simplement de rappeler ces petits éléments de contexte qui nous permettent de comprendre un peu la nature du ministère d'Ésaïe. Maintenant, qu'en est-il de la prophétie d'Ésaïe ? Eh bien, le livre d'Ésaïe raconte l'histoire d'une transformation, comme dans, vas-y, normalement, La Belle et la Bête. Spéciale dédicace à ma DR préférée, Maëlys Français. Maëlys aime beaucoup les Walt Disney. Et son, il faut pas le dire ça, mais son Disney préféré, vous savez c'est quoi ? C'est Bambi. C'est Mimi, non ? C'est Bambi. Spéciale dédicace, rien que pour toi, Maëlys. La Belle et la Bête, que j'ai vue et revue avec ma fille de 3 ans cette année, ce chef-d'œuvre de Walt Disney, qui raconte, vous le savez, l'histoire de Belle. Vous vous rappelez l'histoire ? Belle, une jeune fille sensible et imaginative qui lit, qui emprunte le même livre à la bibliothèque et qui finit par se le faire offrir par le bibliothécaire. Et qui accepte de prendre, en fait, la place de son père dans le cachot d'un château appartenant à une bête monstrueuse et terrifiante. Vous vous rappelez ? Et à la fin du film, cette bête est redevenue quoi ? Un beau prince, Anne-Lise. Merci, un véritable prince charmant. Un peu comme Néhémie, quoi, le mari d'Anne-Lise. Un véritable prince charmant. Et la question qu'on se pose, c'est comment ? Mais comment cette transformation a-t-elle eu lieu, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé entre-temps ? Comment la bête est-elle devenue un prince ? Ah, eh bien, l'amour. L'amour est passé par là. N'est-ce pas, Sylvia ? L'amour est passé par là. Mes amis, Ésaïe nous raconte un peu la même histoire. Au début du livre, Sion. Sion qui est une personnification de quoi, d'ailleurs, selon vous ? De Jérusalem, absolument, du peuple d'Israël. Sion est comparé à quoi ? Vous vous rappelez ? Diapo suivante, je pense. Sion est comparé à une prostituée. On ne va pas le lire, chapitre 1, verset 21. À une péripapéticienne qui traîne à Gerland, si vous habitez à Lyon, sur le cours Charlemagne, ou à Pigalle, si vous habitez à Paris. Et pourquoi Dieu compare son peuple à une prostituée, selon vous ? Parce que ce peuple a trompé son Dieu, parce qu'il a été infidèle à l'égard de l'alliance que le Seigneur a conclue avec elle. Le peuple a adoré d'autres dieux, c'est ce que Dieu appelle de la prostitution. Et à la fin du livre, ce qu'il y a d'extraordinaire, à partir du chapitre 60, à quoi est comparé ce même peuple ? Sion, selon vous. Chapitre 60, verset 2, une cité glorieuse. Chapitre 60, verset 5, à une cité radieuse, un objet de fierté et de réjouissance. Une ville juste, chapitre 62, verset 2, cerise sur le gâteau. Chapitre 62, verset 4, à une épouse radieuse. Mais la même question se pose que dans La Belle et la Bête, non ? Comment ce peuple, comparé à une prostituée au chapitre 1, est devenu une épouse radieuse au chapitre 62 ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'un peuple pécheur peut-il être accepté dans la présence d'un Dieu saint ? Parce que Dieu se révèle comme un Dieu saint dans le livre d'Ésaïe. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est la question qui est non seulement au cœur du livre d'Ésaïe, mais aussi au cœur d'Ésaïe 53. Et je vous propose de découvrir la structure de ce livre. Vous comprenez, pour l'instant, on dirait en anglais « the big picture », le panorama un petit peu du livre, l'histoire d'une transformation. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, c'est en découvrant la structure, mes amis, que nous allons le découvrir. Deux parties principales, versets chapitre 1 à 35. Dans cette première partie du livre, Ésaïe va en fait dénoncer les péchés du peuple. On en a parlé. Idolâtrie, quoi d'autre ? Injustice sociale et orgueil, nourri par une certaine puissance militaire et une prospérité matérielle. Et qu'est-ce que Ésaïe va annoncer, selon vous, suite à ce péché ? Absolument, le jugement inéluctable de Dieu. Un jugement que Dieu va exercer en utilisant quel peuple ? Absolument, le peuple assyrien, la puissance de l'époque, pour envahir le royaume du Nord. En quelle année ? 722, merci, petite révision pour le niveau 2. 722, le royaume du Nord, qui s'appelle comment le royaume du Nord ? Pardon ? Le royaume du Nord ? Israël, capitale ? Samarie, exactement. Envahi, détruit, rayé de la carte en 722. Envahi par la Syrie. Jugement de Dieu sur son peuple. Okay ? Et le royaume du Sud, lui, va aussi être jugé, dans un premier temps, en 701. Il va être envahi par les armées de quel roi ? Petit quiz là. Sennachérib. Et la ville va être miraculeusement délivrée. Donc une première partie vraiment consacrée à quoi ? Au jugement de Dieu qui va s'abattre sur son peuple en raison de son infidélité. Ça va ? C'est clair ? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et ce que j'ai découvert, et ce que j'aimerais vous partager en étudiant ce livre, c'est que dans cette première partie des chapitres 1 à 35, le message d'Ésaïe, placé sous le signe de jugement, a, à mon sens, été déterminé par une vision. La vision du chapitre 6, qui décrit quoi cette vision ? Vous vous rappelez ? Ésaïe dans le temple, et qu'est-ce qu'il découvre ? Ouais, mais qui déclare quoi ? Dieu dans toute sa... Dans toute sa... Dans toute sa... Sainteté, saint, saint, saint est le Seigneur. Ésaïe fait partie d'un peuple aux lèvres impures. Comment pourrait-il se tenir en présence d'un Dieu pur ? Parler de la part d'un Dieu pur, c'est impossible. Et cette vision, mes amis, va déterminer toute la première partie du livre d'Ésaïe. un signe de jugement. Je vous lis le verset 10 de ce chapitre 6. C'est Dieu qui parle. Ce sont des paroles extrêmement dures. Voici ce que Dieu dit à Ésaïe. Rend insensible le cœur de ce peuple. Insensible. Endurcis ses oreilles et bouche les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Mais c'est terrible. Dieu ordonne à Ésaïe de proclamer un message de jugement, mais ouais, de non-salut. C'est terrible. Vous comprenez, c'est un peu comme si la vision d'Ésaïe au chapitre 6 avait déterminé toute la première partie du livre consacrée au jugement du peuple, qui va bel et bien avoir lieu, hein, en 722 notamment, et en 701 partiellement. Deuxième partie du livre, des chapitres 40, combien de chapitres dans le livre d'Ésaïe ? 66, au chapitre 66. Cette fois-ci, Ésaïe va s'adresser aux Judéens, aux Israélites judéens, qui seront en exil. Dans quel pays ? À Babylone, merci. À partir de quelle année ? C'est une question difficile, ça. 597, j'ai noté. Et Ésaïe va s'adresser à ce peuple en exil pour annoncer la fin de l'exil grâce à un libérateur. Ce libérateur sera qui dans l'histoire ? Qu'est-ce qui va permettre au peuple de rentrer en Israël ? Ça sera Cyrus, en effet, dans un premier temps. Le fondateur et roi de quel empire ? L'empire perse. T'as déjà vu le film, toi, non ? Qui va vaincre Babylone, donc, et permettre aux exilés de rentrer chez eux. Ça, c'est la deuxième partie du livre. À partir de quand les Israélites, enfin les Judéens plutôt, vont rentrer chez eux ? 539, 38, ça dépend des versions. Enfin, demandez à Caillou si vous avez une question, finalement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, mes amis, c'est que de la même manière que la première partie du livre est déterminée par une vision, ben devinez quoi ? La deuxième partie du livre est aussi déterminée par une vision de Dieu. Cette vision, à mon sens, elle est au chapitre 40. Dans cette seconde partie, le message d'Ésaïe va donc être placé sous le signe de la consolation dont il a déjà été question au chapitre 40, qui décrit la grandeur de Dieu dans toute sa souveraineté. Okay ? Et c'est dans ce contexte qu'Ésaïe va annoncer la venue d'un autre libérateur, qui va venir pour consoler son peuple et libérer, non pas de l'esclavage d'un pays, mais de l'esclavage de quelque chose de beaucoup plus grave, qui vit en nous, qui nous sépare de Dieu et qui peut nous séparer de Dieu pour l'éternité, mes amis. Vous comprenez l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire ? Et ce qui est encore plus extraordinaire, le meilleur pour la fin, c'est qu'entre ces deux parties, 1.35 et 40.66, il manque quelques chapitres, non ? Il manque quel chapitre ? Chapitre ? Exactement, il manque les chapitres 36 à 39. Les aurais-je oubliés ? Peut-être pas. Entre ces deux parties, il y a ce qu'on appelle un intermède historique, les chapitres 36 à 39. Et c'est extraordinaire encore. La Bible est tellement bien faite. Dieu a tellement bien fait les choses. Remarquez, si Dieu est cohérent, il est normal de lire un livre qui est cohérent. Cet intermède historique est composé de 36, 37, 38, 39. Ça va, je sais compter jusqu'à 4. De 4 chapitres. Les chapitres 36 et 37 qui vont montrer l'accomplissement de ce que Ésaïe a annoncé dans la première partie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va annoncer ? Le jugement et quel événement historique ? L'invasion et le siège de Jérusalem, en fait. Donc, les chapitres 36 et 37 vont montrer l'accomplissement de la première partie du livre, en sorte de conclusion un petit peu. Et ce qu'il y a de magique, c'est que les deux chapitres suivants, les chapitres, si vous m'avez suivi, 38 et 39 vont, quant à eux, annoncer l'exil babylonien à venir. Ça fait office un petit peu d'introduction à la deuxième partie. Et c'est ce qu'on appelle, si vous avez fait des études de lettres littéraires, c'est ce qu'on appelle un passage de Janus. Et normalement, il y a une très belle photo que j'ai trouvée sur Internet. Janus, un dieu romain des commencements et des fins, représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé exactement et l'autre tourné vers l'avenir. On pourrait comparer cet intermède historique à un passage de Janus. Un côté qui montre un petit peu l'accomplissement de ce que Ésaïe vient de dire, tourné vers le passé, vous voyez, hein, et l'autre qui annonce les événements à venir. La Bible, elle n'est pas bien faite. Extraordinaire. Extraordinaire cohérence. Ce qui n'empêche que les auteurs ont certainement rédigé ces choses de manière consciemment organisée, guidée, dans la providence et dans la souveraineté de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est en tout cas dans sa deuxième partie, placée sous le signe de la consolation, qu'interviennent ce qu'on appelle les chants du serviteur. Mais qui est ce serviteur? Qui est ce serviteur? Combien de chants du serviteur? 4, merci. Premier chant, chapitre 42, verset 1 à 9, que vous pourrez lire plus tard. J'aimerais me concentrer sur le quatrième. Dans ce premier chant, le serviteur sera un nouveau Cyrus, un nouvel Israël, un nouveau Moïse. Le serviteur qui va révéler la justice en douceur à la lumière de Dieu aux nations. Deuxième chant, chapitre 49, des versets 1 à 13. Là, il est question également d'un nouveau Israël et d'un nouveau Moïse, mais qui va conduire son peuple dans un nouvel exode. Bizarre ça, un nouvel exode. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'exode? Le peuple de Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour entrer où? En terre promise. Et là, le serviteur est comparé finalement à un libérateur qui va conduire son peuple dans un nouvel exode. Et qui va révéler le jugement et le salut de Dieu par son peuple. Troisième chant du serviteur, quel chapitre? 50, versets 4 à 11. Là, il s'agit d'un disciple attentif et fidèle, un prophète qui va souffrir alors qu'il est innocent. Un serviteur qui va souffrir alors qu'il est innocent. Mais pourquoi? Qui est ce mystérieux serviteur? Le suspense digne d'un film d'Alfred Hitchcock est à son comble. Insoutenable, n'est-ce pas? En fait, le suspense arrive à son terme, hein, le serviteur désigne parfois, mes amis, le peuple d'Israël. C'est vrai. Notamment le cas de Ésaïe 41, verset 8 et de 44, verset 1. En fait, le serviteur désigne également parfois Cyrus, nous l'avons dit, le fondateur de l'Empire perse. Mais comme vous le savez, comme vous vous en doutez, ce serviteur, et dont il sera question au chapitre 53, le mont Everest de la prophétie messianique, ce serviteur n'est autre que le roi messianique, le roi du peuple de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament, le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui va venir libérer son peuple, non pas de l'esclavage d'un pays, mais de quelque chose de tellement plus grave, quelque chose qui peut nous séparer de Dieu pour l'éternité. L'esclavage de ce que la Bible appelle le péché et de ses conséquences dramatiques, la mort, le juste jugement de Dieu finalement. Si Dieu est juste, il est saint, il ne peut tolérer le péché, il se doit de le punir justement. Question importante, qu'il faut régler absolument, si cette question n'est pas réglée pour vous aujourd'hui. Petite synthèse, au début du livre donc, d'Ésaïe. Sion est comparé à quoi? Une prostituée. À la fin du livre, Sion est comparé à quoi? Une épouse radieuse. Comment cette transformation a-t-elle eu lieu? Que s'est-il passé entre-temps? Comment un peuple pécheur, dont je fais partie aujourd'hui, par nature, comment ce peuple peut-il être accepté dans la présence d'un Dieu saint? Comment c'est possible? Le pardon, avant Ésaïe 53, a déjà été annoncé par Dieu. Il a déjà été annoncé. Mais sur quelle base ce pardon va-t-il être effectué? Comment ça va marcher concrètement? Tout à fait. Alors comme nous l'avons dit, cette question est très importante, et non seulement au cœur d'Ésaïe 53, non seulement au cœur du livre d'Ésaïe, j'espère vous l'avoir démontré, non seulement au cœur du récit biblique, de la révélation biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un peu la thématique de toute la Bible, comment un Dieu saint, pur, parfait, plutôt comme un peuple pécheur peut-il être en relation avec un Dieu saint, pur et parfait? Comment? Eh bien, mes amis, cette question est non seulement au cœur d'Ésaïe 53, d'Ésaïe, du récit biblique, mais de la condition humaine, de notre condition humaine, personnelle, individuelle, qui nous concerne tous ce matin, finalement, si vous vous considérez comme homme ou femme. Avons-nous conscience, avez-vous conscience que vous êtes pécheur aux yeux de Dieu, coupable? C'est la mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on en a conscience? Et que notre plus grand besoin, avant d'avoir un diplôme, avant d'avoir un métier, avant d'avoir deux enfants, un chien, une maison, une retraite aux Baléares, que le plus grand besoin de notre vie, c'est d'être pardonné de nos péchés, pour pouvoir être en relation, en paix, en règle, réconcilié avec Dieu pour l'éternité. C'est notre plus grand besoin, est-ce que vous en avez conscience? C'est l'intérêt majeur de ce chapitre, au-delà de tout débat théologique auquel je pourrais vous sensibiliser. Important, certes, mais pas aussi important que cette question qu'il faut régler. Qu'il faut régler. Comment Dieu va donc régler ce problème? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir cette semaine, au travers, mes amis, d'un serviteur extraordinaire. Un serviteur qui, dans un amour sacrificiel pour son peuple, inconditionnel, hallucinant, va se substituer à lui et accepter d'être condamné à sa place, d'être percé pour ses péchés. C'est l'accent décisif du chapitre que nous allons lire dans quelques minutes ensemble et qui est organisé, selon moi, en structure concentrique. Est-ce qu'il y a une diapo, Yo, pour... Voilà, merci. J'aimerais vraiment vous sensibiliser. Je vais aller au bout de ma réflexion. Hein. La Bible est organisée de manière extraordinaire. Le livre d'Ésaïe est organisé de manière extraordinaire. Ésaïe 53 est organisé, à mon sens, de manière extraordinaire. Regardez ce qui se passe. On a, à mon sens, à mes yeux, une structure concentrique. C'est-à-dire, on a 5 strophes, c'est un poème, avec les deux premières strophes qui correspondent aux deux dernières, et au centre, on a le cœur du poème. Regardez ce qui se passe. Premièrement, on va avoir l'exaltation du serviteur, demain. Je peux continuer à défiler, merci. Voilà. La dernière strophe est également consacrée à l'exaltation du serviteur. La deuxième et la quatrième strophe va être consacrée à l'exclusion du serviteur. Le prophète va dire qu'il est exclu des hommes, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il va dire qu'il est exclu de la terre des vivants. Et au centre, on a quoi? On a l'explication des souffrances du serviteur. Pourquoi ce serviteur a souffert, finalement? C'est le cœur du message de la Bible. Pourquoi il a souffert? Pour nous pardonner de nos péchés, pour régler ce problème qui nous sépare de Dieu. Vous voyez comment c'est bien fait? C'est ce que nous verrons dans quelques jours. Mais finalement, mes amis, et pour conclure, n'est-il pas immoral, complètement immoral, de croire que c'est sur la base d'une autre personne, d'un serviteur, le sacrifice de nous, d'une autre personne, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés? C'est pas immoral de croire ça? Chose promise, chose due, j'aimerais conclure par une petite séance d'application et de formation pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons voir. Un jour, vous avez peut-être été confronté à Christopher Hitchens, je ne sais pas, dans votre famille, parmi vos amis à la fac, qui auraient pu réfléchir à cette question, ou vous vous êtes peut-être même posé vous-même cette question. Comment y répondre théologiquement? Je pense qu'en tant que chrétien, notre devoir est vraiment de comprendre les doctrines auxquelles nous croyons, non seulement pour pouvoir les expliquer, mais aussi pour pouvoir les défendre face à ceux qui la remettent en question. Je recite 1 Pierre 3,15, hein. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et crainte. Pour finir, 3 éléments de réponse assez brefs. Premier élément de réponse, il est en effet injuste qu'un individu paye pour un autre individu, c'est vrai. Il est complètement injuste, dans l'absolu, qu'un individu paye pour un autre individu, c'est vrai. Mais dans la conception biblique de la substitution pénale, là, je vous préviens, vos cerveaux vont un peu surchauffer, ok? Je vous préviens. Donc, si je vois de la fumée qui sort, je vous préviens. Dans la conception biblique de la substitution pénale ou vicaire, il est très important de comprendre que l'homme n'est pas considéré simplement comme un individu et qu'il appartient à ce qu'on appelle une communauté. Je prends deux exemples, je pense, pratiques. Premièrement, une communauté selon laquelle, par exemple, un père répond des actes de son fils. Quand mon gamin de 1 an fait une bêtise, qui est-ce qui paye les pots cassés? C'est moi. Si mon fils fait trop de bruit dans mon couloir, les voisins vont venir frapper à la porte et on passe à prendre à lui. Ils vont s'apprendre à moi et c'est moi qui vais m'excuser. Vous comprenez? L'homme n'est pas seulement un individu, il appartient à une communauté. Deuxième exemple. Un supérieur peut couvrir la faute d'un subordonné. Ça va peut-être vous arriver un jour. Vous êtes un subordonné, vous faites une faute. Qu'est-ce qui va vous couvrir normalement? C'est votre supérieur. Et si vous êtes supérieur, un jour, vous allez devoir peut-être couvrir la faute d'un autre. Vous voyez comment dans l'humanité, nous ne sommes pas que des individus. Nous appartenons à une communauté. Et c'est en vertu de cette communauté, de cette solidarité, de ce rapport de chef à membre qui existe dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Parents-enfants, supérieurs, subordonnés. C'est dans ce cadre que Jésus, le chef, est devenu le suppléant, le remplaçant, le substitut des croyants. C'est en vertu de cette communauté, de cette solidarité, de ce rapport de chef à membre que Jésus est devenu notre suppléant en acceptant volontairement d'être condamné à notre place, de subir la peine, le châtiment que je méritais pour mes péchés. Vous voyez, c'est en vertu de ce lien de solidarité, de chef à membre, de communauté, que le transfert de culpabilité est possible. Premier élément de réponse. L'homme n'est pas un individu seulement. Deuxième élément de réponse. Hitchens a raison, hein, finalement. Le péché est un acte personnel qui ne peut être transféré en tant que tel. C'est vrai, d'une certaine manière. On ne peut pas le nier. Quand je pêche dans ma vie, par exemple, c'est moi qui pêche, vous êtes d'accord. C'est pas vous qui pêchez. Quand je pêche dans ma vie, c'est pas Jésus qui pêche. Jésus ne s'est jamais repenti d'aucun péché, il n'a jamais péché. Mais comme l'écrit Henri Blocher, Henri Blocher, que j'ai eu en tant que professeur et que vous, certains d'entre vous connaissent, dans son manuel « La doctrine du péché et de la rédemption », si vous n'arrivez pas à dormir ce soir, je peux vous prêter ce livre, 240 pages de théologie, voici ce qu'il dit. Le péché a une autre dimension. Il n'y a pas l'acte nu seulement, mais un poids de culpabilité, une dette judiciaire. Fin de citation. Est-ce que vous comprenez finalement que c'est de ce poids, de cette dette judiciaire objective que Jésus s'est chargé, d'accord ? Pour citer un autre théologien britannique, cette fois Jim Packer, que vous connaissez peut-être, qui a écrit « Connaître Dieu », un grand classique, voici ce qu'il dit. Il exprime un peu la même idée en d'autres termes. Quand Dieu justifie des pécheurs, quand il les déclare justes, il ne déclare pas que des gens mauvais sont bons, ou il ne dit pas qu'ils ne sont pas pécheurs après tout. Il les déclare légalement justes, libres de toute responsabilité de la loi enfreinte, parce qu'il a lui-même porté dans son Fils la sanction de leur infraction. Deuxième élément de réponse. Okay. Troisième et dernier élément de réponse, apporté cette fois par John Stott, qui a écrit « La croix de Christ », que je vous conseille de lire, hein, un livre un peu plus abordable, tout aussi profond. Et voici ce qu'il écrit. « Ce qui a été transféré sur Christ, vous vous rappelez, on parlait d'un transfert, ce qui a été transféré sur Christ, ce ne sont pas des conséquences morales, ce sont des conséquences légales, on pourrait dire juridiques. Il a volontairement accepté la responsabilité de nos péchés. Autrement dit, est-ce que vous comprenez les implications ? Il n'y a rien d'immoral dans la substitution pénale. Pourquoi ? Mais il n'y a rien d'immoral. Parce que le substitut de ceux qui ont enfreint la loi n'est autre que qui ? Celui qui a fait la loi, vous comprenez ? Il n'y a rien d'immoral. Celui qui se substitue, c'est celui qui a fait la loi. Qu'y a-t-il d'immoral à ça ? Et c'est ce que confirme l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, qu'on appelle Karl Barth, rien à voir avec Bart Simpson ou avec Karl Marx, je vous rassure, dans un mastodonte également, qu'on appelle la dogmatique, qui a été écrit en plusieurs volumes, et dans un volume intitulé « Le juge jugé à notre place », voici ce que Karl Barth décrit. Le juge a été jugé à notre place, un juge qui a accepté d'être percé pour nos péchés. C'est ce qu'on a dit. De devenir péché, d'être considéré coupable, ce qui rend Dieu parfaitement juste. Dieu est juste, non ? En condamnant un coupable. Jésus étant considéré comme coupable, il est juste, parce que Jésus est considéré comme coupable. Ce n'est que justice. Un juge jugé à notre place. Est-ce que vous vous rendez compte ? Qui mérite, que nous l'aimions de tout notre cœur, finalement. De toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Pour ce qu'il est Dieu. Mais aussi pour ce qu'il a fait par amour pour nous, pour vous. On prie, pour finir. On peut prendre juste quelques secondes pour réfléchir aux implications de ce que nous avons vu, au-delà du débat théologique auquel nous avons été sensibilisés, l'intérêt pratique de ce chapitre, le problème qui se pose, qui est au cœur de la condition humaine. Comment un peuple pécheur peut-il rentrer dans la présence d'un Dieu saint ? Seulement au travers du sacrifice du serviteur, percé pour nos péchés. Notre Dieu, notre Père, au début de cette semaine que nous nous apprêtons à passer ensemble, c'est dans un esprit de repentance que nous voulons nous approcher de toi. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et contre les autres, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, en acte, en parole et même en pensée. Nous te demandons pardon, sachant que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est donc dans la reconnaissance que nous voulons également nous approcher de toi. Car si nous avons l'assurance d'être pardonnés, purifiés, transformés, ce n'est pas en vertu de notre propre fidélité, de notre propre justice, mais en vertu de ta fidélité, de ta justice, de ton amour, manifesté dans la personne et l'œuvre de ton serviteur, le Seigneur Jésus, qui a été percé pour nos péchés, qui est mort à notre place, et ressuscité pour notre espérance vivante. Nous prions donc que tu nous aides à approfondir notre compréhension de l'Évangile, à venir à toi dans la foi et la repentance pour la première fois peut-être cette semaine, pour que nous puissions témoigner fidèlement, le vivre joyeusement et le défendre efficacement par la puissance de ton Esprit, au nom de Jésus. Amen.